انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا الوزيرة الفرنسية مينيستر دريغي دو لانفونس دو لا جونيس اي دي فامي سارة لايري في برنامجكم اكسبريسو اليوم الصباح. تنم لها فرصة وجودها في تونس 48 ساعة باش نحكيو معها على موضوع مهم في جدل في بلادنا، موضوع الأطفال ولي مينور واستعمالهم مواقع التواصل الاجتماعي، استعمالهم لبعض التطبيقات، استعمالهم لل ايضا للالعاب الالعاب الى اخره. هذه الكل باش نحكيوا فيها. علاش؟ خاطر فرنسا من سنتين تقريبا فما زوز قوانين تعدلوا في هذا السياق وعندها تجربه، اي لو ديبا مازال متواصل معناتها في فرنسا. فهذه الكل قلنا نختنموا فرصه وجودها هنا، خلينا نشوفوا وين وصلوا، نستنسوا بتجربتهم، مي سورتو شنو اللي نجم يصير بين لي دو ريف دو لا ميديتيراني في هذا المجال من تعاون وغيره. بونجور، ميرسي داكسبتي نوتر انفيتاسيون سو ماتان.
بونجور.
Alors, j'essaie de planter un petit peu le décor, je ne sais pas si vous avez...
Oui, il se trouve que tu parles en arabe.
Tu parles en arabe. Tu parles en arabe, le parles en arabe? Non.
Non. شوية
مرحبا بك. en tout cas في تونس سيدة الوزيرة madame la ministre comme je l'expliquais donc on va essayer de je voulais vraiment explorer un petit peu l'expérience française en matière de protection de l'enfance aujourd'hui. Vous évoquez d'ailleurs, j'ai vu une excellente interview dans la presse, dans le journal la presse qui est paru, et pour vous citer, donc vous mentionnez que les plateformes ont des obligations supplémentaires face aux risques systémique. Pourtant, on voit que des plateformes aujourd'hui, comme Roblox ou TikTok, ils peinent à filtrer les moins de 13 ans. L'autorégulation des acteurs privés aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'elle a échoué ?
Vous savez, bien sûr que c'est aujourd'hui en mouvement. Moi, le plus grand risque que je vois, ouais, c'est de considérer que tout le numérique est égal et qu'il faut le traiter de la même manière. Mmh. Attention, nous sommes en train de vivre... une transition, une vraie révolution technologique, il y a plein d'opportunités, il faut s'en saisir, il faut les transmettre, il faut les apprendre, il faut les maîtriser, il faut aller chercher de la souveraineté sur nos données, il faut aller chercher de la sécurité pour un certain nombre de pratiques, mais il faut regarder la spécificité des enfants sur uniquement, et je précise, certains usages. Je parle bien sûr de l'économie de l'attention, et donc finalement, c'est ces comportements, ces dark patterns, ces outils qui, par le choix volontaire, pour le coup, des concepteurs, vont faire que les enfants vont rester plus longtemps, pour le coup, se voir enfermés dans des bulles algorithmiques, on parle d'emprise, et surtout aujourd'hui, de conséquences sur la santé publique, par exemple, dégradation de la santé mentale, ou malheureusement, des prédations nouvelles, puisqu'elles arrivent dans un endroit où les parents sont assez démunis, c'est-à-dire via le smartphone, tout seul dans sa chambre. Et là, je crois qu'on a un grand moment de rendez-vous. Quelle régulation ? À quel point les libertés individuelles de chacun vont venir être bousculés, c'est pas anodin, hein. C'est des moments où il faut être très 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 vigilant. À quel niveau, à quelle hauteur, qu'est-ce qu'on accepte? Au prix de la protection des enfants, comment on ne vient pas grignoter finalement des usages ou peut-être des opportunités demain? Moi je crois qu'il faut, oui, une vérification d'âge sur certains sites, pas tous, ceux qui n'acceptent pas, ceux qui ne sont pas au rendez-vous de la modération, du signalement, ou qui ont des pratiques pour le coup dites addictives, hein, par l'OMS, c'est pas un qualificatif de ma bouche, ou même qui ont fait de nos enfants des actifs stratégiques de leur modèle économique et donc qui monétisent leur attention, leurs données et donc malheureusement leur présence. Et en parallèle, et vraiment en frontal, je crois que le temps est venu au développement beaucoup plus massif, je vais dire même beaucoup plus ambitieux, de l'EdTech, de aujourd'hui cet apprentissage grâce à des nouveaux usages. Je pense à l'IA générative, je pense à la réalité virtuelle augmentée, je pense à la gamification des apprentissages et des politiques pour le coup de prévention, je pense aux questionnements qu'on a vocation à avoir sur l'éducation aux médias et donc les programmes scolaires, et enfin comment on accompagne les parents, parce que aujourd'hui en France, comme en Tunisie, et en fait un peu de tous les côtés et de tous les bords de la Méditerranée, il y a une inversion de la pyramide des savoirs. Nos jeunes, nos adolescents, mais sont aujourd'hui en capacité de nous transmettre si on leur donne l'espace, la place pour participer à la décision.
Je salue les miens s'ils m'écoutent ce matin et certainement beaucoup d'autres parents qui sont en train de dire voilà, super super allié que nous avons ce matin avec les enfants. Mais justement, vous évoquez la santé mentale, vous évoquez cet espace qui peut contenir des prédateurs, justement. Alors,
malheureusement, oui.
pour revenir justement sur la protection de la santé mentale, on parle aujourd'hui de, entre guillemets, techno-paternalisme. Mmh. Donc les algorithmes sont conçus aujourd'hui pour captiver l'attention. Donc on appelle ça aujourd'hui un petit peu l'économie de l'attention.
Bien
et
sûr.
Donc, est-ce qu'on peut vraiment attendre que des acteurs privés modifient leur modèle économique qui repose justement sur le temps passé devant les écrans et donc ça, on a tendance à vouloir croire que ça les arrange pas de modifier tout cela.
Mais bien sûr
pour
que non.
Protéger la santé mentale.
Évidemment que non, parce que la santé mentale de nos enfants aujourd'hui, elle est socialisée. C'est nous qui portons les conséquences malheureusement de la dégradation. Mais enfin, on peut pas se permettre d'être acteur témoin du grignotage pour le coup du potentiel de nos enfants en simplement leur demandant s'il vous plaît régulez. Et donc c'est là où il y a une double responsabilité de la puissance publique, mais aussi aujourd'hui du monde économique des investisseurs. Parce que toutes ces boîtes, elles ont des partenaires, elles ont des émetteurs, elles ont en réalité des acteurs qui vont utiliser cette plateforme aussi pour diffuser de l'information. L'engagement que moi je pense aujourd'hui nécessaire, c'est cette grande coalition qui dit d'une certaine manière stop. Stop au choix et à la volonté, en tout cas objective, de prédation de cette attention sur les jeunes, sur les enfants. Et en même temps, quand tu es un adulte, mais tu es pour le coup libre d'y aller ou pas. C'est ta liberté d'être exposé ou pas à un certain nombre de propos, de les signaler, mais tu es musclé. Tu as cette capacité, cette liberté d'action. Quand tu es un enfant, on ne peut pas te laisser être transformé en proie, voire en produit de ces plateformes. Donc régulation, d'abord européenne, DSA, DMA, nouvelle régulation sur la vérification d'âge, d'un certain nombre de fonctionnalités. Ça a marché sur la pornographie en particulier, uniquement et exclusivement si tu es en capacité de garantir la liberté. Et pour le coup, je vais aller un peu plus loin, la non-diffusion des données des adultes qui souhaitent pour le coup aller sur ces sites, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas de raison particulière de dire que ces sites n'ont pas vocation à exister. Par contre, nos enfants n'ont pas à y être exposés.
Alors chaque réponse me donne 3-4 questions, on ne va jamais y arriver, je vais quand même essayer d'y aller plus rapidement. Alors la question de la vérification d'âge que vous avez évoquée tout à l'heure, on a l'impression que c'est juste une formalité, est-ce que c'est juste, voilà, dites que vous avez plus que cet âge-là, on clique et on y va.
Ça c'est ce qu'on a fait pendant longtemps,
voilà,
mais ça ne marche pas ça.
Et justement, vous demandez aujourd'hui une vérification qui soit à la fois infaillible, mais respectueuse de la vie privée, sans que cela ne devienne un outil de surveillance massive.
Bien sûr, et donc...
Vous avez des idées ou juste vous dites
non,
voilà
non.
Moi, c'est pas mon problème. Je vous dis comment vous allez devoir faire. C'est à vous de trouver des solutions.
Ah non, j'ai même plus que des idées. On a fait des expérimentations. Il se trouve que je suis, en réalité, moi, je suis une geek finie. Je suis de la génération qui aime la technologie, qui voit un potentiel énorme de la transformation de notre vie quotidienne, mais en bien, en mieux, en progrès. Je crois encore au progrès. Et donc, on a expérimenté en particulier sur l'interdiction et la vérification d'âge pour la majorité. Donc 18 ans pour vérifier et accéder aux sites pornographiques. Il se trouve que si, il y a des outils. La France expérimente ce qu'on appelle le mini-wallet. Plein d'outils, il y a à peu près une quinzaine, de manière de vérifier l'identité ou l'âge, avec plus ou moins, pour le coup, de distance et d'usage de documents d'identité. Mais surtout, la plateforme n'a jamais accès à votre identité. En fait, c'est ça l'enjeu et le risque. Tu acceptes de protéger si on te garantit que tes libertés fondamentales sont également protégées, ce qui est pour le coup légitime. Et sur les sites pornographiques, on l'a expérimenté, tout le monde nous disait ça ne marche pas. C'est incantatoire. Oui, c'est pas parfait. Je suis pas là pour dire que c'est tout à fait parfait. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir les startups tunisiennes aller plus loin sur les questions d'outils, de contrôle, d'évolution des offres, pour le coup, qu'on peut venir plugger dans ces grands moments de régulation. Mais si ça marche, ça a marché pour la pornographie, ça marche aujourd'hui en Australie, c'est Chypre qui arrive, même si, encore une fois, on va être très clair, un jeune qui installe un VPN, qui utilise des petits subterfuges, effectivement, il arrivera à passer à travers les mailles du filet. Mais ce n'est pas l'imperméabilité du contrôle qui compte. C'est qu'un enfant de 9 ans n'a pas à être exposé à des images pornographiques sans le souhaiter. Un enfant sur deux, c'était le cas. Un enfant sur deux. Et un enfant de 15 ans ou de 14 ans, s'il a vraiment envie, oui, il va trouver les chemins. Mais il sera déjà plus aguerri. C'est-à-dire que comme il sait qu'il va sur un espace qui est dangereux pour lui par la violence ou par l'exposition, il n'aura pas la même naïveté en arrivant sur cet espace. Donc, d'une certaine manière, la protection, elle est intrinsèque.
Alors, je salue encore une fois les enfants qui nous écoutent ce matin. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben oui, donc VPN, c'est voilà. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi VPN? Je vais aider les parents qui sont en voiture, c'est rien. C'est rien du tout. C'est voilà, c'est des vaches, c'est des pizzas, c'est des nuages, c'est des belles choses. Voilà. C'est le programme du week-end. On va pas leur donner des idées non plus.
Non, tout à
Très bien.
fait.
Très bien.
Et d'ailleurs, su super petite, parce que les enfants sont peut-être effectivement dans la voiture avec les parents.
Ah oui,
Je
là,
vous
ils sont.
invite à faire un jeu. On le fait pour le coup. Il y a plein d'outils sur nos sites, mais qu'on teste. Moi, je crois au consensus. Je crois à la discussion familiale. Faites des petits, il y a des jeux pour permettre de poser vos téléphones en même temps, parents compris. Alors c'est un challenge pour les parents. J'espère qu'ils ne vont pas changer d'onde en direct, mais la question des usages de nos smartphones en particulier nous questionne nous aussi en tant que parents. En fait, on est très aspiré par ces outils-là. On l'utilise pour travailler, on l'utilise pour se divertir, pour communiquer. Et donc nos enfants nous voient aussi beaucoup sur ces supports, sans spécialement savoir est-ce qu'on est en train de travailler, est-ce qu'on est en train de répondre à des mails professionnels, ou est-ce qu'on est en train de faire les courses d'avance, ou est-ce qu'on est en train de communiquer en famille. Et je crois qu'on a aussi, d'une certaine manière, une sorte de devoir d'expliquer à nos enfants qu'est-ce qu'on fait un peu dessus et de resanctuariser des moments sans téléphone pour aussi reprendre du temps collectif, réutiliser la télé, reprofiter finalement du support écran collectif, familial et moins du très personnel qui peut être très enfermant qui est le smartphone.
Et justement, ça c'est une bonne question parce que la télé existait bien avant, il y avait peut-être beaucoup moins de contenu, tout était entre guillemets contrôlé en amont puisqu'il fallait attendre les tranches réservées aux enfants où il y avait des dessins animés, des choses comme ça. Enfin voilà, bon, c'est une question peut-être de l'offre, de l'abondance, de comment c'est de contrôle en fin de compte, peut-être, mais toujours réfléchir à ce que ça ne devienne
Il
pas
faut
un
être très
outil
vigilant.
de surveillance. Voilà, alors justement, est-ce que je sais qu'il y a certainement des décideurs à ce niveau-là qui nous écoutent, donc comment la France, elle a fait, enfin, est-ce qu'il y a des choses à faire avec les opérateurs télécoms, avec les constructeurs, bah, les fabricants de smartphones, de téléphones, je ne vais pas citer des marques, dans l'installation native d'outils de contrôle parental qui seraient, entre guillemets, plus restrictifs?
Bien sûr. Alors, pour le coup, moi, je suis venue aussi en Tunisie parce que ce qui m'a intéressée, c'est la vitalité de votre communauté EdTech. Dans le cadre des startups, vraiment, l'EdTech a aujourd'hui un champ entier parce qu'elle est plutôt Safe Child by Design. Elle est conçue en étant protectrice et respectueuse des enfants. Sur la question, pour le coup, des nouvelles pratiques, les opérateurs, nous, par exemple, on avait fait une loi qui obligeait que tous les nouveaux smartphones intègrent le contrôle parental et soient paramétrés comme si c'était un mineur de base. Il fallait dire que tu étais un majeur pour finalement passer sur un accès large. Mais la réalité, c'est que vous avez 90% à peu près, 85-90% du fait que le premier smartphone que tu donnes à ton enfant, c'est pas celui que tu achètes, hein. C'est, tu achètes pour toi un nouveau et tu donnes l'ancien que une fois sur deux, tu as oublié de réinitialiser. Donc peut-être juste une bonne pratique pour tous les parents. Et puis quand on prend le téléphone du grand frère ou de la grande sœur et qu'on le donne au plus petit, pensez à le réinitialiser, non pas que pour les données, mais pour réinstaller finalement les paramétrages d'âge, puisque les opérateurs ont des obligations légales à condition de savoir. Quand on achète une ligne téléphonique pour son enfant, je sais que ce n'est pas le plus agréable, mais déclarer le fait que c'est à l'attention d'un enfant permet par exemple de le protéger d'un certain nombre d'accès jusqu'à sa majorité. Tout à l'heure, je parlais pour le coup du VPN. En France, par exemple, on a un grand opérateur qui rend les VPN gratuits sur les téléphones portables, bah, que ceux des majeurs. Et donc, si on achète le téléphone à son nom et qu'on le donne à son enfant, le risque, c'est qu'il ne soit pas protégé de ces évolutions-là. Voilà, c'est des toutes petites choses, mais qui sont plutôt allantes. Et surtout, je continue peut-être dans la logique, nous, on a fait des ateliers parents parlant numérique pour permettre aux parents, tous les parents, toute classe sociale, se posent la question de comment ils prennent en main le contrôle parental, les outils comme Google Family, par exemple, ou YouTube Family. Donc finalement, tous ces outils qui te permettent de discuter avec tes enfants de leurs usages et des contenus auxquels ils peuvent accéder. L'idée, ce n'est pas d'enfermer, pour le coup, d'exclure les enfants du monde numérique, absolument pas, mais de poser, d'une certaine manière, des digues, des parcours d'apprentissage pour qu'ils ne soient pas ni en situation de prédation, ni, pour le coup, en danger, parce que dans des espaces qui ne sont pas faits pour eux.
Alors,
sans réduire les libertés des autres.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, pas mal de points en commun entre la Tunisie et la France sur pas mal de ces questions, donc ils partagent des objectifs communs également, mais face à aujourd'hui des entreprises, des géants dont les budgets peuvent dépasser le PIB de certains États, ben, comment peser? Est-ce que la solution passe par des sanctions financières réellement ou alors des sanctions dissuasives basées sur le chiffre d'affaires, etc. mondial? Enfin, je ne sais
Non, il
pas.
y a deux jambes. La première, c'est évidemment, on va dire, la jambe qui est lancée, qui est en cours. On a une judiciarisation des acteurs de l'économie de l'attention. Je parle évidemment des grands géants, des GAFA. On a une condamnation historique aux États-Unis de Meta en particulier, avec des milliards qui sont en jeu. Et ça, c'est la première étape. Et cette judiciarisation, elle est aux États-Unis, elle est en France, elle est en cours sur la dégradation de la santé mentale, par exemple sur TikTok. Donc ça, c'est en cours. Mais on ne va pas attendre qu'il soit condamné par la justice pour avancer. Enfin,
C'est ça.
c'est quand même, ça n'a pas de sens. Et donc, l'évolution du droit et des conditions qu'on leur impose, dont la vérification d'âge, les oblige soit à améliorer, pour le coup, leurs algorithmes et leurs règles de fonctionnalité, soit, pour le coup, à sortir une partie de leurs utilisateurs qui seraient les enfants de moins de 15 ans. Mais ça, c'est qu'une étape. Moi, je crois à la deuxième jambe. La deuxième jambe, c'est quoi? C'est la naissance, en réalité, par pour le coup, du marché public, mais aussi par des partenariats éducatifs très forts, et la responsabilité des opérateurs télécoms de porter et d'accompagner une souveraineté de ces plateformes, qu'elles soient méditerranéennes, du nord au sud. Et vous avez ici, pour le coup en Tunisie, des super pépites qui, franchement, à mes yeux, seront demain des licornes absolument structurantes sur le marché pour avoir des réseaux sociaux compatibles avec le fait et le développement et le cérébral et cognitif des enfants. Moi, mon sujet, c'est quand je regarde mais de l'imagerie médicale, le cerveau des enfants trop exposé, des enfants qui sont exposés à des images violentes, il y a des conséquences et des séquelles. On n'a pas le droit de faire comme s'il ne se passait rien. Par contre, comment on développe le reste? Eh bien, on développe le reste en soutenant, en entreprenant et, je crois surtout, aussi en éduquant.
Alors, vous parlez de deux jambes,
Ouais.
donc je ne vais pas dire une jambe en plus, comme c'est arrivé des fois, mais ça, vous savez
Là, c'est vous qui...
l'expression, ouais, vous savez l'expression, ça fait une belle jambe. Donc, c'est quelque chose de... Alors, peut-être une troisième voie, peut-être aujourd'hui, est-ce que c'est envisageable, vous savez, le rapport enfant et écran,
Bien
vous
sûr.
connaissez, voilà,
Bien
de
sûr,
2000.
Monsieur Benyamina, professeur Benyamina et professeur Mouton.
Tout à fait, de 2024, qui évoque la toxicité de certains algorithmes de recommandation. Est-ce que vous pouvez, vous êtes capable aujourd'hui, vous en France, ou peut-être ailleurs, ou même ici en Tunisie, hein, mes questions s'adressent indirectement aussi à des
Bien.
décideurs tunisiens, peut-être d'exiger des acteurs privés une transparence totale sur le fonctionnement de leurs algorithmes pour les mineurs? Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Oui, je vais être très honnête avec vous. Moi, je pense que c'est la prochaine étape législative, la régulation permettant d'abord la vérification d'âge et donc la protection des plus petits et des plus vulnérables, et ensuite des comportements différenciés entre un adulte majeur ou une majorité numérique et un enfant. Encore une fois, on n'autorise pas tout, pour le coup, aux enfants sous prétexte que les adultes consomment ou utilisent, parce qu'il y a des conséquences. Et donc, moi, je vais même aller un brin plus loin. Moi, j'étais très intéressée par l'avancée, pour le coup, de la Tunisie sur le code de la protection de l'enfant. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de travailler sur le code de l'enfance en France, mais avec tout un chapitre qu'on n'avait pas eu à connaître et à écrire, la parentalité numérique, les nouveaux droits, le droit à l'image, la question des données. Et je vais peut-être un petit peu, peut-être vous étonner ou choquer, mais aujourd'hui, pourquoi cette économie de l'attention, elle brasse à peu près 1 200 milliards de dollars? 1 200 milliards de dollars. Parce que nos enfants sont devenus le produit.
C'est ce que j'allais vous dire. Déjà, j'allais évoquer tout à l'heure, et là, encore une fois, la même idée me revenait. On le dit souvent, si c'est gratuit, c'est que tu es le produit.
Mais c'est vrai, c'est absolument vrai. Et donc, quand c'est gratuit, tu es le produit, que tu sois un adulte et que tu acceptes et que tu mettes oui, je consens, c'est une chose. Mais quand tu es un enfant et que demain, ton meilleur ami est une IA générative et que tu lui donnes de la donnée, de la donnée, de la donnée. Qu'est-ce qui te dit que demain, cette donnée ne va pas être commercialisée auprès, je sais pas, d'écoles d'enseignement supérieur, d'assureurs ou d'employeurs? Qu'est-ce qui fait que demain, cette donnée, elle ne sera pas retournée d'une certaine manière contre toi parce qu'elle permettra de te cibler des produits, sachant qu'aujourd'hui, on sait que l'IA est devenue le premier référencement d'achat. C'est extrêmement intéressant d'accompagner ces nouveaux comportements, mais de manière plus protectrice pour les jeunes.
Alors en parlant d'achat, je termine avec deux questions rapides. Le marketing d'influence cible massivement aujourd'hui les adolescents. Alors faut-il interdire toute forme de publicité ciblée, de placement de produits, dès lors que l'utilisateur est identifié comme un mineur
Non.
par la plateforme?
Je vais être honnête avec vous, on a toujours toujours eu de la publicité à la télé pour les enfants. Ouais. Moi, encore une fois, je suis pas une technophobe. Il y en a encore beaucoup. Par contre, c'est régulé. C'est-à-dire que tu fais pas à certaines heures, tu cibles pas sur certains produits. On sait que il y a des règles. Et aujourd'hui, c'est quoi le sujet ? C'est que c'est un peu le Far West. Mmh. La question, c'est pas de tout interdire. Encore une fois, ouais. Ces enfants vont vivre dans un monde hybride. Mmh. Il faut plutôt qu'on leur donne les moyens de pouvoir être des acteurs et ne pas subir. Et la question du marketing pour le coup ciblé, tu ne les cibles pas sur des jeux d'argent parce que c'est addictif et on le sait que c'est dangereux. Mmh. Tu ne les cibles pas sur des produits pour le coup hyper sexualisants ou dangereux pour eux. Tu ne les cibles pas sur des produits financiers. Enfin, voilà, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas. Et du coup, il faut avancer dans le cadre commun qu'on s'applique aujourd'hui aux médias, écrit ou télé, et les amener sur cet espace qui est encore très dérégulé, qui est un espace de liberté, encore une fois, oui, mais pas à tout prix.
Alors, pourriez-vous imposer ou voudriez-vous imposer aux réseaux sociaux la suppression des fonctionnalités addictives comme le scroll infini ou les notifications intrusives, encore une fois pour les comptes de mineurs?
Je crois même que c'est le prochain combat, oui, pour les enfants uniquement, du dark pattern au scroll infini, et certains ont commencé à le faire, donc je salue leur travail. Je pense à des grands noms qu'on connaît, hein. Je pense à YouTube Kids par exemple, les fonctionnalités de YouTube Kids, il n'y a pas le scroll infini, il y a sur YouTube. Sur Lego a développé un réseau social, très bien. Contrôle, pas de pédocriminels, pas d'usage de l'image. Et donc chaque âge, son espace, chaque âge, on le fait dans notre vie publique et notre vie citoyenne. Aujourd'hui, il faut que ça soit dans notre vie numérique. J'irai même un tout petit peu plus loin, c'est peut-être un peu audacieux, mais quand tu fais le choix et tu prends la décision volontaire d'utiliser ces outils qui sont addictifs et dangereux parce qu'ils ciblent les enfants, un jour se posera la question de la responsabilité pénale des dirigeants qui ont décidé ces choix-là.
Si un décideur aujourd'hui avait les GAFA devant lui, tous les patrons des GAFA devant lui, quelle serait la seule mesure non négociable qu'il leur imposerait, que vous leur imposeriez, si c'était vous, face à eux, d'ici la fin de l'année?
De différencier l'algorithme entre un mineur et un majeur.
Très bien. Et ces mineurs, justement, ces enfants, je termine avec cette question, est-ce qu'on ne devrait pas en fait les impliquer dans ce débat?
On a l'impression
de faire les débats sans eux ou de les impliquer d'une manière sur des workshops.
Non, on le fait. En fait, nous, on le fait parce que je suis le haut commissariat.
Ils sont plus intelligents qu'en quoi cette nouvelle génération.
Non,
je suis sûr que si on les impliquait, ben, ils seraient eux-mêmes les garants de tout ça. Ils pourraient commencer à se dire, ben, ça, on veut
ça,
bien
on
laisser
veut pas.
Tomber. C'est vrai, ça.
Ils sont, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Ils sont beaucoup plus éclairés sur les deepfakes, sur les fake news. Ils savent plus, savent mieux. D'ailleurs, c'est eux qui te disent, c'est de l'IA. Et t'es là, bah, t'es sûr Oui, parce qu'ils ont un regard plus aiguisé. Et pour le coup, leur participation et leur présence tout au long des process de décision est une de mes missions et j'y mets un point d'honneur, même si on a vocation à le faire plus souvent et partout.
Merci beaucoup, merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation ce matin. Plusieurs auditeurs qui posent des questions, on n'aurait jamais eu le temps, mais déjà je pense qu'on a posé pas mal de questions. Je pense même qu'elle peut inspirer, hein. En France, il y a certaines déclarations que je ne vous ai pas entendu faire par ailleurs, mais c'est bien, c'est ça aussi, on essaie de réfléchir ensemble, et c'est le but même de venir, de se confronter à d'autres façons de voir les choses, peut-être
et
de réfléchir ensemble, de se compléter. Bravo, merci beaucoup. Soklan Lik, Saïda El-Wazila Faransaya, ministre délégué de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, Sarah El-Airi, Soklan.
Soklan, Mezilan.
أقعد ومعنا مازلنا مواصلين حتى للتسعة ونص تو سويت أخبار سهيل رجعين.